Apocalypse chapitre 14. Il y a deux versets en particulier où vous voulez méditer, mais nous n'aurons peut-être pas le temps ce soir, vu le contexte de ce chapitre 14. Verset 1er. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point et n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus, de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Voilà, c'est les versets 12 et 13 que l'on méditera, mais je voudrais d'abord voir le contexte de ces quelques versets que nous avons vus. Souvenons-nous que le livre de l'Apocalypse est à mettre en parallèle si nous voulons comprendre certains textes, car dans l'Apocalypse, il y a des portions qui sont claires, il y en a d'autres pas très claires, il y en a d'autres obscures. Donc nous avons besoin de la grâce et du secours de Dieu, mais pour lire le livre de l'Apocalypse, il nous faut aussi lire le livre de Daniel, nous l'avons médité il y a 15 jours, un passage, le livre de Zacharie, et certains chapitres du livre d'Ézéchiel. Alors, eh bien, moi je crois que le Seigneur nous a donné aussi ce livre pour nous édifier, nous encourager, pour nous les croyants. Je rappelle que l'Apocalypse signifie dévoilement, révélation, sur ce qui doit arriver bientôt. Le thème principal de ce livre, c'est le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur qui arrive. Et l'Église dit « Maranatha, viens bientôt Seigneur Jésus ». C'est le cri de l'Église vers le bien-aimé, vers l'époux qui vient bientôt. Et Dieu demande à l'apôtre Jean de décrire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, d'écrire et d'envoyer certaines lettres donc aux sept églises et d'écrire pour conservé dans ce livre que nous avons aujourd'hui. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 19, il est dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, ou ce qui doit arriver bientôt. Et à partir des sept églises, c'est ce qui est et ce qui doit arriver bientôt, c'est ce que nous avons lu ce soir et les autres chapitres. Dans notre texte, l'on pourrait intituler ce passage que nous avons vu « Quand vient la fin ?» Et vous savez que la fin arrive bientôt. Pour nous, ce n'est pas synonyme d'angoisse ou de terreur. Pour nous, c'est synonyme d'une grande, grande joie parce que celui que nous aimons sans l'avoir vu vient bientôt chercher son Église. Et c'est là notre espérance. Notre espérance, bien sûr, n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Alors, il y a dans notre texte, dans les versets que nous avons lus, il y a la fin qui attend ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et nous prions pour que beaucoup se convertissent. Du verset 6 au verset 11, la fin qui les attend. Mais il y a aussi la fin de tout croyant véritable, donc dans ces chapitres 12 et chapitre 13. Et pour nous, le livre de l'Apocalypse, il est glorieux, il est merveilleux, il est rempli d'espérance. Et nous attendons ce bien-aimé. Nous voyons également au travers de tous les chapitres de l'Apocalypse, il y a des choses qui pourraient remplir de terreur, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, mais nous voyons qu'au travers des avertissements, des jugements, de la colère de Dieu pour les rebelles, et au travers de tous ces chapitres, nous voyons qu'il y a les croyants véritables, ceux qui appartiennent au Seigneur, nous les voyons partout. Ils passent comme à travers tous les jugements, ils passent comme à travers la colère de Dieu, parce que, eh bien, ils sont justifiés par le sang de Jésus. Ces chrétiens qui sont appelés les saints, qui sont debout, qui persévèrent, qui sont vainqueurs et qui, bien sûr, sont à l'abri de tous ces jugements. Combien nous voyons au travers de ce livre, eh bien, la bonté de Dieu qui avertit toujours les hommes. Combien nous voulons bénir Dieu pour ces avertissements qui sont là, et peut-être ce soir, quelqu'un, peut-être qui entend ces paroles, eh bien, se tournera vers le Seigneur. Ces paroles qui sont à notre disposition, ces paroles qui ont été lues et relues par beaucoup, eh bien, qu'elles puissent toucher les cœurs et que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu, se convertissent et marchent avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, nous méditerons plus tard, pas ce soir, mais les versets 12 et 13, il y a bien des enseignements dans ces versets 12 et 13, des enseignements qui nous poussent à persévérer dans la foi. Mais nous allons voir le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'abord, l'agneau et ses rachetés. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec les 144 000 croyants, chrétiens, ceux qui n'ont pas plié le genou, ceux qui marchent avec le Seigneur. D'abord, la montagne de Sion, c'est le symbole de la nouvelle Jérusalem. Cette montagne de Sion, la Jérusalem d'en haut, nous trouvons cela dans Galates, au chapitre 4 et verset 26, cette Jérusalem d'en haut. Les 144 000, alors là, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a diverses pensées sur ces 144 000. Certains pensent que c'est 12 000 croyants de toutes les tribus d'Israël, excepté la tribu de Dan. D'autres, au contraire, croient qu'il s'agit de tous ceux qui ont été rachetés, tous ceux qui ont été rachetés, et particulièrement ceux qui ont traversé la persécution, qui ont été même martyrs, ceux qui ont suivi en tous les cas le Seigneur partout où il allait. Ce sont les prémices. Ce sont les prémices, 144 000, ce sont les prémices de tous les rachetés de tous les temps. Et il y a ce jour de la grande réunion. Alors nous nous réunissons et nous bénissons Dieu pour le culte, pour les réunions de prière quand nous pouvons nous réunir. Nous bénissons Dieu aussi pour le Zoom. Mais un jour, il y aura la grande réunion, le grand culte, le plus grand culte. Et ce moment-là, la Bible nous dit qu'il y aura des milliers, des myriades, pardon, de myriades et des milliers de milliers. Nous trouvons cela dans Apocalypse 5. Quelle réunion extraordinaire! On chantera un cantique nouveau. C'est formidable quand nous verrons de tous les croyants de toutes les époques, de tous les temps, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, eh bien, nous serons réunis. Est-ce que nous y avons déjà songé? Il n'y aura pas besoin de laisser des places, etc., mais il y aura de la place pour tous ceux eh bien, qui ont marché avec le Seigneur. Dans le verset 5, il nous est dit que chez ces prémices, chez ces 144 000, ceux qui adorent Dieu avec des harpes qui chantent ce cantique nouveau, il ne s'est point trouvé de mensonge. Formidable que nos bouches eh bien, proclament toujours les bontés du Seigneur. Que jamais, comme eux, il ne se trouve de mensonge ou de paroles négatives, eh bien, nous voulons utiliser nos bouches, notre langue, pour célébrer notre Dieu. C'est ce qui fait plaisir à notre Dieu. Il y a ensuite, à partir du verset 6, il y a trois anges qui apportent trois messages. Trois messages distincts. Le premier des anges qui apporte un message, il apporte un évangile éternel. Et j'ai réfléchi un petit peu là-dessus, je me dis, mais même dans le ciel, un ange qui volait dans le ciel, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation. Je me dis, c'est quand même beau, la bonté de Dieu est grande, même dans le ciel, et c'est peut-être la dernière fois que l'évangile va retentir dans ce passage pour tous les hommes, pour toutes les nations, ce que Jésus avait dit, avait ordonné aux disciples, allez par tous les peuples, par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Et bien là, nous voyons que encore un ange dans le ciel prêche l'évangile éternel. Alors j'ai réfléchi, c'est là que nous voyons toute la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur. Il ne veut pas que les hommes périssent, il ne veut pas qu'ils aillent dans ce lieu de tourment, mais il veut qu'ils viennent, Dieu désire que les hommes viennent dans sa présence et jouissent eh bien, de sa présence. L'appel de Dieu retentit encore dans le ciel d'une voix forte et pour tous ceux qui l'entendent. Alors, quand nous lisons ces versets, cela nous pousse, cela nous pousse à nous aussi être ces témoins véritables. Dans ces versets, eh bien, comme les anges qui ont annoncé l'évangile, eh bien, nous devons aussi faire retentir l'évangile de Jésus-Christ au milieu de notre génération, dans ceux qui nous entourent, leur dire eh bien, combien Dieu les aime, combien Dieu veut les avoir avec lui, combien Dieu a payé un prix fort au bois de la croix pour les avoir avec lui. Et au milieu du ciel, un ange annonce. Alors, réfléchis, je me suis dit, mais les anges, eux, ils n'ont jamais péché. Ils n'ont jamais péché, donc ils ne connaissent pas la portée de la croix, de l'évangile. Eux qui n'ont jamais péché, ils n'ont jamais pu expérimenter. Et en sorte que Dieu demande à un ange d'apporter un évangile dont il ne connaît même pas la portée lui-même. Et pour ce faire, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 12, il nous est dit, je n'ai pas écrit le verset en entier, mais à partir de voilà, ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ils ne connaissent pas l'Évangile. Ils ne peuvent pas comprendre ce que l'Évangile apporte au cœur de l'homme, au pécheur. Et Dieu, comme dans la dernière minute, au dernier moment, du ciel retentit encore cet Évangile éternel qu'un ange va prêcher. Et c'est extraordinaire. On se dit, l'amour de Dieu, il va jusque-là. Quel message, Quel message glorieux! Des centaines de millions de personnes dans le monde ne sont pas en règle avec Dieu. Et si Jésus revient, ils partent et bien loin du Seigneur pour l'éternité. Ce passage devrait nous amener à nous pousser à témoigner de la grâce de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Un deuxième ange apporte un autre message, différent bien sûr, à partir du verset 8. Il nous est dit que cet ange est venu apporter la nouvelle « Babylone est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Elle est tombée. » Alors certains pensent là aussi, et on pensait, j'avais entendu même dire que Babylone, oui, c'était la religion romaine qui était apostate, qui avait dévié. Mais quand nous lisons l'Écriture, nous nous apercevons qu'il ne s'agit pas de Rome ni de la religion officielle, parce que cette religion n'est pas tombée, parce qu'elle n'est jamais été dans le sillon de Dieu, mais il s'agit bien de Jérusalem. Dans Ésaïe, au chapitre 1er, verset 21, il nous est dit « Quoi donc ? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. » Un autre verset vient corroborer dans Apocalypse, chapitre 11 et verset 8. Il est dit « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là où le Seigneur a été crucifié. » Donc nous nous apercevons que celle qui a été n'est plus. Celle qui a été l'objet des regards de Dieu, Jérusalem, eh bien, elle n'est plus dans le texte. En tous les cas, la Jérusalem terrestre, celle qui aurait dû marcher dans les voies du Seigneur. L'apôtre Paul donne cette exhortation que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et dans ces temps qui arrivent, nous devons nous cramponner au Seigneur de plus en plus, ne pas diminuer, mais au contraire, il nous faut augmenter, il nous faut nous rapprocher toujours de Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, « La charité du plus grand nombre se refroidira ». Et nous, il ne faut pas qu'elle se refroidisse. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui réchauffe nos âmes, qui nous redonne cet amour qui vient de Dieu. Il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours aussi puissant pour nous communiquer cet amour qui vient de lui, l'amour véritable, non pas l'amour sentimental, mais l'amour qui vient de Dieu. Il ne doit pas se refroidir, mais au contraire, augmenter dans ces temps de la fin. Et enfin, le troisième ange qui dit d'une voix forte, qui proclame dans le verset 9, un autre ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu. » Là, on va s'y arrêter quelques instants. D'une voix forte, il met en garde contre la séduction qui est dans le monde, contre le mensonge, l'apostasie, la fausse adoration qui sévit même parmi la chrétienté. La bête et son image. Nous rajouterons un verset dans Apocalypse, chapitre 3. Afin que son image, que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde, et déjà Jean en parlait de son temps dans ses épîtres, dans les épîtres de Jean. L'esprit de l'Antichrist est là à l'œuvre partout dans le monde, et je dirais dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères, il agit, plus particulièrement, bien sûr, dans les moyens modernes, ordinateurs, portables, enfin, tout ce qui est connecté, L'esprit de l'Antichrist, je ne dis pas qu'il y a que des mauvaises choses, hein, mais l'esprit de l'Antichrist s'en sert. Cet esprit veut eh bien, façonner les esprits des croyants même, afin que l'esprit de Dieu ne nous touche plus, afin que l'esprit de Dieu ne convainc plus. Il veut façonner notre esprit, mais nous ne voulons pas le laisser faire. Et vous savez que bientôt, ça ira encore plus loin pour acheter et pour vendre. On y vient bientôt. La mondialisation, tout se met en place. Bientôt, ceux qui voudront résister seront persécutés. Il est question d'une marque sur le front. Et le front, bien sûr, nous parle des pensées. C'est là qu'il veut toucher les pensées. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, il nous est parlé de cette parole qui est là entre nos yeux. Il y avait un petit boîtier avec la parole de Dieu qui est là sur les mains, sur les franges, etc. La parole de Dieu, c'est elle qui doit façonner nos pensées. Et ce n'est pas l'esprit de l'Antichrist qui doit façonner nos pensées. Et il est question d'une marque aussi sur la main droite et sur le front et sur la main droite. Et la main nous parle, bien sûr, de l'activité, elle nous parle de la force. Alors soyons très vigilants parce que c'est très, très, très subtil. Mais je crois que Dieu nous garde, que tous ceux qui sont sincères et qui marchent avec Dieu seront gardés au travers de toutes les tentations, toutes les séductions qui s'abattent de plus en plus sur le monde. Eh bien, ne soyons pas comme le reste du monde, mais soyons façonnés par la parole et par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir échapper à toute cette séduction. Le diable ne fait que singer Dieu. Il imite. Et en parlant de marque, Dieu aussi a ses marques à lui. La première marque que Dieu va mettre sur ceux qu'il a voulu, bien sûr, dans le livre de la Genèse, déjà dans le chapitre 4, le verset 15, il est question de Caïn. Il est dit, et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que quiconque le rencontrerait ou le trouverait ne le tue point. Il a déjà mis une marque sur ceux qu'il a voulu. Et tout au long de la parole, il y a Dieu qui a sa marque à lui. Dans Ézéchiel, au chapitre 9, verset 14, il est dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 19, il est dit, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau, de marque. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu a sa marque à lui. Elle n'est peut-être pas visible, mais Dieu a sa marque. Et Dieu marque ce qui lui appartient, ceux qu'il aime, ceux qui le suivent, ceux qui ont le même esprit que lui, la même pensée que le Seigneur. Ceux qui souffrent parce que Dieu souffre, ceux qui aiment ce que Dieu aime, il y a une marque pour tout cela. Dieu a mis une marque, elle est invisible, mais elle est bien réelle. Jusqu'où va notre attachement pour le Seigneur? Sommes-nous prêts dans ces temps qui arrivent, et ces temps qui sont des temps de révélation, qui révèlent les cœurs pour nous amener à la repentance, pour nous amener à un retour à lui, pour laisser le Seigneur nous dépouiller des feuillages de tout ce qui est inutile dans notre vie. Et par l'épreuve, Dieu nous dépouille de tout ce qui est inutile afin que nous puissions porter du fruit. Sommes-nous prêts à être peut-être calomniés pour le nom du Seigneur, à être persécutés, à souffrir pour son nom? C'est ceux-là qui sont véritablement attachés. Gardons-nous toujours de vouloir vivre d'une manière à ne pas souffrir, à ne pas être bousculé, persécuté. Et l'évangile ne sera jamais dilué, l'évangile ne sera jamais rendu acceptable pour ceux qui vivent dans le péché. Mais l'évangile, c'est l'évangile éternel, l'évangile de Dieu, c'est la parole de Dieu, et celle-là ne changera jamais, ne bougera point. Nous vivons des temps difficiles, mais nous sommes dans la paix. Nous traversons des épreuves, mais nous sommes dans la paix parce que c'est Dieu qui nous donne la paix. Notre espérance, c'est Christ. Et dans les temps à venir, nous n'avons pas à avoir peur. Même si le vent soufflera fort, nous n'avons pas à avoir peur parce que nous sommes dans la main du Seigneur. Et dans la main du Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Que Dieu nous aide et nous garde. En parlant des évangiles dénaturés, j'ai été choqué l'autre jour quand j'ai appris que, je ne m'y étais pas trop intéressé, mais ce que la première puissance mondiale et le président de cette puissance mondiale qui a prêté serment sur la parole de Dieu, sur la Bible, comme tous les présidents l'ont fait avant lui. Et j'ai été choqué de savoir qu'il avait choisi un de ses ministres qui était transgenre. Je me dis, c'est pas possible, quoi, de prêter serment sur la parole de Dieu et de se moquer de Dieu en prenant un ministre transgenre, en étant, c'est une abomination devant le Seigneur. Je referme la parenthèse, mais nous avons besoin de laisser la parole de Dieu façonner nos esprits, de prendre position. Nous, on n'a pas à lutter contre, nous, on a à vivre pour la gloire du Seigneur, pour que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Vous savez, tout ce qui se passe dans les ténèbres, dans les lieux obscurs, Dieu voit tout. Nous, nous voyons que la partie extérieure de l'iceberg, mais Dieu voit tout. Il connaît tout, toute pensée, toute parole viendra à la lumière avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à avoir cette crainte de Dieu, à marcher dans ses voies, à toujours nous laisser façonner. Comment sont-ils ceux qui n'ont pas, ceux qui n'adorent pas Dieu en esprit, mais qui adorent les idoles modernes? Vous voyez, les idoles ont changé. Elles sont peut-être modernes, mais tous ceux qui adorent les idoles, comment sont-ils? Au verset 11, nous avons une description, il nous est dit qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Il y a une agitation dans les pensées. Il n'y a pas de repos, comme nous l'avons entendu mardi dernier, le frère Gérardot qui nous parlait du repos de Dieu. Mais là, ils n'ont pas de repos, il n'y a pas de repos de Dieu. Que Dieu nous aide à l'adorer, lui, Dieu, en esprit et en vérité. Tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité goûtent au repos de Dieu, goûtent à la tranquillité, la sérénité. Certains ont parlé de ces puces qui vont être injectées dans le corps, je ne sais pas comment, d'autres par des moyens informatiques ou autres. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, ce que je désire le plus, c'est d'être connu de Dieu. C'est d'avoir sa marque à lui, non pas une marque d'un étranger, mais la marque du Fils de Dieu, d'être trouvé digne de souffrir pour son nom et de ne jamais le renier avec sa grâce et son secours. C'est en train de se mettre en place. Vous savez que une grande religion mondiale est en train de se mettre en place, mais Jésus nous a avertis. J'aimerais lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, je vous laisse le temps d'y aller, moi aussi j'y vais. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, il parle bien sûr des temps de la fin, de son retour. Je lirai juste quelques versets à partir du verset 21. Donc, Matthieu, chapitre 24 et verset 21. « Car alors, la détresse sera grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu soit béni. Jésus nous avertit en toutes choses. Et si nous méditons sérieusement la parole de Dieu, eh bien, nous comprenons les stratèges ou les manigances de l'ennemi. Et nous ne voulons pas tomber dedans. C'est subtil, mais l'Esprit de Dieu est plus fort. La parole de Dieu est plus forte. Le Christ est plus fort. C'est celui qui a vaincu. Et en lui, il nous rend même plus que vainqueurs. Et je voudrais juste relire en conclusion les deux versets que nous méditerons la prochaine fois. Pour nous qui croyons, pour nous qui nous attachons au Seigneur, pour nous qui persévérons, eh bien voici ces deux versets, versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ça, c'est pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est pour tous ceux qui auront persévéré. C'est vrai qu'ici-bas, nous avons des souffrances, nous avons de l'adversité, peut-être de l'opposition, voire peut-être pour quelques-uns de la persécution, mais ça vaut la peine de souffrir pour le Christ, parce que, eh bien, il nous prépare, lui, une place de choix. Et si nous devons partir avant ou si nous partirons quand le Seigneur va revenir, peu importe, mais nous vivrons quelque chose d'extraordinaire. Nous oublierons toutes nos souffrances d'ici-bas et nous vivrons dans cette félicité dans le ciel. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Nous comprenons que le diable fait tout ce qu'il peut pour essayer de nous détourner, pour s'attaquer à nos pensées, mettre des choses négatives dans nos pensées, dans notre cœur. Ne l'écoutons pas, ne laissons rien rentrer de ce qui est nuisible pour nos âmes. Mais dans notre cœur, il nous faut que la louange, l'adoration pour notre Dieu, nous voulons nous servir de nos bouches pour bénir nos frères et sœurs, bénir le Seigneur et témoigner de l'amour de Jésus. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et le Seigneur veut que nous puissions proclamer, que nous puissions témoigner de son amour et de sa grâce à ceux qui sont perdus. Parce que quand nous voyons ce qui les attend, eh bien, nous voulons faire tout ce qui est dans nos possibilités pour ne pas qu'ils aillent dans ce lieu de tourment. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. On va prier ensemble quelques instants. Si quelques-uns veulent élever la voix, nous prions ensemble et ensuite nous nous séparerons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que quand nous voyons, Seigneur, tu as tout écrit. Tous ceux dont nous avons besoin de savoir, tu as tout écrit, Seigneur. Tu nous as avertis, tu nous as montré les choses qui vont arriver. Seigneur, mais pour nous, eh bien, nous nous réjouissons, bien sûr, de ce qui nous attend. Si nous persévérons jusqu'au bout, eh bien, nous régnerons un jour avec toi. Seigneur, mais ceux qui sont perdus, ceux dont la colère de Dieu repose sur leur tête, Seigneur, nous ne voulons pas. Et nous te prions, Seigneur, que l'Évangile ait un accès dans leur cœur. Nous pensons aux enfants, nous pensons aux ados, aux jeunes, nous pensons aux personnes âgées qui ont refusé encore jusqu'à ce jour. Nous pensons aux conjoints qui ne se sont pas donnés à toi et nos sœurs, eh bien, soupirent et prient, Seigneur. Nous te prions que cet Évangile éternel touche leur cœur, qu'ils se donnent à toi, qu'ils échappent à toute cette séduction, cette emprise de l'Antichrist et de son esprit qui est en train de prendre possession de notre monde, Seigneur. Nous te prions qu'ils en soient extraits. Nous te prions pour eux au nom de Jésus. Amen.